voix nue. Ce soir encore, Sébastien Petitot rencontre Emmanuel Todd. Tout de suite, le discours de l'ami Todd.
Bonsoir Emmanuel Todd.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes historien, démographe, anthropologue. Hier, après avoir évoqué vos rapports qu'on va qualifier de difficiles avec l'université française, depuis la publication de votre thèse centrale sur les systèmes familiaux, nous en étions restés à la rédaction de cette note en 94 pour la Fondation Saint-Simon et au malentendu qui en a découlé, puisque Jacques Chirac, il faut s'en rappeler, s'est appuyé à l'époque sans réserve sur cette note pour fonder sa campagne victorieuse à la présidentielle de 95. Pourriez-vous nous raconter l'origine de ce malentendu ?
La note, c'est un hasard. Je crois que j'étais un de ces petits déjeuners du point où on nous annonçait la veille le dernier résultat du dernier sondage qui n'avait pas le droit d'être publié. Puis je m'étais retrouvé à la même table que Pierre Rosanvallon, qui était l'âme de la Fondation Saint-Simon. Et il me dit, est-ce que vous allez faire de l'analyse électorale sur ça ? Je faisais dans la presse de l'analyse électorale depuis l'invention de la France, en fait. Je fais toujours une sorte de violondingue de géographie électorale. Et puis j'ai dit non, et puis il me demande si je veux pas faire une analyse sur je sais plus quelle élection, ça doit être régionale, que j'ai fini par faire, très en retard. Et puis je sais pas, pour l'actualiser, on s'était quand même pas mal rapproché de la présidentielle. Je me souviens plus tellement du détail. Je me souviens simplement donc j'avais eu une analyse du corps électoral qui était un truc très sérieux, où j'avais réidentifié la moitié du corps électoral comme étant composé d'ouvriers et d'employés, ouvriers hommes, employés femmes, mariés ensemble. Donc j'avais redécouvert l'existence des milieux populaires. À l'époque, les gens croyaient que la disparition du Parti communiste signifiait que les ouvriers n'existaient plus, ce qui est une sorte de erreur logique, de paralogisme néo-marxiste incroyable chez des gens de droite. Donc il y avait une sorte d'analyse de fond. Et bien je me souviens qu'à la fin, comme on était dans le conflit Balladur-Chirac, je me suis dit, tiens, je vais faire chier mes copains socialistes. Je suis quand même dans un milieu de gauche. Et j'avais une phrase sur « nous devons nous attendre à Jacques Chirac, transformé en homme de gauche par la force des choses ». C'était l'époque où le PS était complètement implosé. Et puis, je crois que à l'époque, j'étais dans ce club fondé par Jean-Claude Guibaud et Régis Debray, qui s'appelait Phares et Balises. On recevait des hommes politiques. Puis ils avaient reçu Chirac. Là, donc j'avais envoyé ma note, était la composition chez Rosanvallon, là. Donc Chirac arrive. Un mec pose les questions attendues sur la poésie japonaise. Chirac répond bien. Et puis la conversation languit. Et Guibaud dit, mais c'était à l'époque où les journalistes demandaient à Chirac s'il avait vraiment l'intention de se présenter. Il était à 11% dans les sondages. Monsieur le, je sais pas ce qu'on disait, monsieur le Premier ministre, ça faisait son titre antérieur. Vous savez que nous avons ici un très bon connaisseur de sociologie électorale qui pense que vous êtes le mieux placé pour être élu. Donc moi, je rentre la tête dans les épaules. J'étais encore assez timide à l'époque. Puis j'ai dû improviser un exposé et expliquant cette thèse. Donc Chirac, évidemment, trouvait ça très original. Mais c'était la rigolade. Je me souviens très très bien que j'avais terminé en disant « Et je précise que je n'ai pas besoin d'appartement ».
Parce qu'on est à une époque où...
C'était à l'époque où les appartements de la ville de Paris étaient... Et ça s'est terminé en déconnant sur le trottoir de la rue de l'Odéon. Puis voilà. Mais il n'y avait pas la notion de fracture sociale dans le texte, qui est un truc de Marcel Gauchet. Que Guénot a dû, à mon avis, Guénot a dû le reprendre dans Gauchet, puisque c'est Guénot qui a fait les discours de Chirac. Et ça a été dans, là, on était tout de suite dans le malentendu total, puisque les gens ont cru. Les Chiraciens ont joué aussi un peu avec l'idée que des intellectuels de gauche s'intéressaient à eux. Moi, j'ai laissé faire. Ça m'avait donné accès aux médias, donc je pouvais dégoiser contre le traité de Maastricht, soutenir une ligne chevènementaux-séguiniste impeccable devant tous les micros qu'on me tendait. J'étais très content.
Oui. Vous êtes en train de le dire et de le constater, c'est que la conséquence de ce malentendu sur la fracture sociale, l'élection de Chirac et la note Saint-Simon, c'est que vous avez une visibilité médiatique à ce moment-là de plus en plus importante.
Ah oui, ça a été massif.
Vous êtes de plus en plus souvent convié dans les émissions de débat et je suis étonné que le timide pathologique que vous disiez être accepte à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous motive ?
Non, mais le premier truc, c'est au début, c'était quand même, à l'époque de la fracture sociale, l'élection de Chirac, on était dans les débats sur Maastricht. Maastricht était passé, j'avais voté non à Maastricht. Au moment de Maastricht, j'étais totalement dépolitisé. Le débat sur Maastricht m'a vraiment ramené à la conscience civique. J'ai immédiatement eu le sentiment en tant qu'anthropologue que ça allait être une catastrophe, que la monnaie unique ne marcherait jamais, parce que les sociétés avancées ne convergeaient pas historiquement, et donc que ça allait produire ce que ça a produit. Et j'étais vraiment révolté par l'inconscience des gens qui nous gouvernent. J'ai découvert leur incompétence. J'ai découvert qu'ils étaient nuls, ce que je n'avais pas imaginé. Et j'étais dans la situation du chercheur citoyen indigné auquel, tout d'un coup, on donne des moyens d'expression dont il n'avait jamais rêvé. Je veux dire, on ne peut pas résister. On vient vous demander, c'est le type, le personnage lambda qui, tout d'un coup, est libéré dans la parole. Comment est-ce qu'on peut... Même timide, on ne peut pas résister à ça. C'est un devoir de citoyen, c'est un bonheur d'individu. Je pense aussi que... J'étais déjà quand même un peu passé à la télé pour quand La Chute finale était sortie. Je pense quand même que c'est l'obligation de passer à la télévision, qui est une chose qui m'a toujours terrorisé, un peu moins, mais j'ai besoin d'un coup de rouge après, toujours, pour me mettre. Je pense que c'est le fait d'avoir à le faire, c'est ce qui a fini par me faire sortir de ma timidité. Je ne sais pas ce que les gens doivent à la télévision ou ne lui doivent pas, mais moi, ce que je dois sans doute à la télévision, c'est de m'avoir mis dans des telles conditions de terreur psychologique que j'ai dû... Mais moi, l'image que j'ai de moi-même quand je suis à la télé, c'est l'image du lapin aveuglé par des phares de voiture au milieu de la nuit. Pour moi, c'est ma base pour la télévision. Maintenant, ça va un peu mieux, mais pas tellement mieux, en fait. Pas tellement mieux.
Je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce que vous dites avec Emmanuel Todd quand il est jeune et quand il rejette assez violemment dans vos premiers entretiens la figure de l'intellectuel français qui va donner un avis sur tout, sur tous les sujets.
Oui.
Or, le grand public vous connaît aussi dans ces années-là comme l'intellectuel qui peut...
Mais ça, c'est une erreur. J'ai parlé d'économie, j'ai parlé d'immigration. À ma connaissance, je n'ai jamais parlé d'art. Je ne suis intervenu dans le débat que quand j'avais le sentiment que mon activité de chercheur m'avait donné une clé que les autres n'avaient pas. Donc, par exemple, Maastricht. Donc tout le monde est là, on se dit on va faire la monnaie unique, on s'aime, les Français, les Allemands, les Italiens, bon voilà. Et au moment où ce truc était décidé et mis en place, moi j'étais dans des recherches sur ce qui arrivait aux immigrés, et notamment aux immigrés d'origine musulmane, dans quelques pays avancés. Donc j'avais un gros travail sur les États-Unis, mais j'avais en France, j'avais l'Angleterre, enfin, la Grande-Bretagne, dans le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et j'étais en train de mesurer que dans trois sociétés qui, à l'époque, étaient au même niveau. Maintenant, on dirait plus ça de la France et l'Allemagne. Maintenant, on est de nouveau plus au même niveau. Hein ? Donc, il y avait cette idée d'hypothèse économique, de convergence des sociétés avancées dans la société de consommation. Et moi, je mesurais, pour les filles d'immigrés algériens en France, 25% de mariage mixte, c'était plus pour les garçons. Pour les filles d'immigrés turcs en Allemagne, moins de 2% de mariage mixte. Et pour les filles d'immigrés pakistanais, en Angleterre, c'était encore moins epsilon. Et donc, je voyais, j'avais sous les yeux la divergence des sociétés avancées d'Europe sur cette question d'immigration qui suggérait que le système de mœurs, que les valeurs étaient toujours différentes. Les indicateurs de fécondité étaient différents, mais ça, c'est des trucs de chercheurs, de démographes. Donc, c'est en tant que démographe et anthropologue, je me suis dit, Maastricht, ça va pas marcher. Donc, j'interviens dans le débat en tant que démographe, anthropologue. Mais j'ai un truc à dire, vous voyez. Ça n'est pas être un intellectuel généraliste. Ça n'est pas donner son opinion sur tout. Et je me souviens, j'avais été à l'émission de Philippe Meyer pour remplacer, je crois que c'est Julliard qui n'était pas là à ce moment-là. On m'a gardé un mois ou deux, et puis on ne m'a pas prolongé parce que je m'étais fait une spécialité. Philippe Meyer disait « Nous devons être toutologues, nous devons être toutologues ». Et moi, je m'étais fait une spécialité quand il y avait une question qui venait, tiens, mais là, je sais pas, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc, comme dirait Julio Iglesias, non, il n'est pas changé. Hein, je suis toujours...
Toujours pour comprendre, Emmanuel Todd, votre présence médiatique forte ces 20 dernières années.
Vous dites non, mais c'est vrai que par contre, d'abord, c'est juste pas vrai que je suis extrêmement présent. C'est-à-dire que si vous faites un comptage, vous verrez que c'est pas vrai. Je suis allé beaucoup à Ce soir ou jamais, qui a assuré ma réputation C'est Tadei qui a fait de moi ce qu'on appelait autrefois, non pas une bête de scène, parce que j'ai tendance à faire des tunnels épouvantables. C'est la première émission chez Tadei, c'est la première, comme il laisse parler les gens, c'est la première où justement j'avais pas le sentiment d'être un lapin affolé. C'est la première émission où un verre de rouge et dents, j'ai eu le sentiment d'être normal. Ça m'a pas empêché de dire des horreurs sur Sarkozy et des choses comme ça. Mais c'est juste pas vrai que j'y vais beaucoup. Vous voyez, c'est pas vrai. Maintenant, j'y vais, les motivations qui fait qu'on se montre, c'est les mêmes pour tous les hommes. J'imagine qu'il y a une part d'ambition, de vanité satisfaite, mais dans une mesure quand même assez raisonnable. Et quand je suis tricard, parce que j'ai dit des trucs qui plaisent pas et que je vais plus dans les médias, ça m'empêche pas de vivre. Hein.
Vous dites qu'un chercheur aussi, ce n'est pas un type sympa qui cherche à dire que le monde est en ordre. C'est un gars désagréable qui veut retourner la réalité et prouver que d'autres ont tort. C'est ça votre moteur ?
Non, mais ça c'est expliqué, dit par Musil au début, l'homme sans qualité. C'est pas mon moteur, c'est comme ça. Si vous voulez le... Je ne sais plus ce que dit exactement Musil ou ce que j'ai une grosse habitude de déformer les citations dans le sens mentalement dans le sens qui m'arrange. Mais si vous êtes un chercheur en fait, vous cherchez à trouver des trucs que les autres n'ont pas trouvé. Donc vous êtes quand même dans une logique de dépassement et de contradiction d'autrui. Si vous voulez trouver des trucs importants, vous allez inévitablement rentrer en conflit avec des habitudes d'autrui. Donc, peut-être que l'éthique de la vérité suffit. Dire, je veux la vérité, rien que la vérité, et tant pis si ça avait des dégâts à côté. Mais en fait, je peux dire, moi, quand j'ai lu ce truc de Musil, je me suis dit, ouais, c'est juste trop marrant de retourner la réalité. C'est l'histoire du mec qui dit, non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et c'est quand même super drôle, enfin, dans un sens... Et de dire, c'est pas les philosophes du XVIIIe siècle qui ont inventé la liberté et l'égalité, c'est juste les Parisiens du bassin parisien, un paysan du bassin parisien qui avait l'habitude de découper leur héritage de façon égalitaire entre leurs enfants et d'éjecter leurs enfants assez tôt de chez eux, donc ils pensent en termes de liberté, d'égalité dans la famille. Et ben, quand ils ont eu le choix sur le marché, entre des tas d'idées, 100 ans, quand ils ont appris à lire et écrire, ils ont trouvé que l'idée de liberté, d'égalité des hommes était raisonnable. Et de dire, bon, en gros, les philosophes, ils ont fait de l'habillage, quoi. Bon, c'est une vérité, mais ça me fait marrer de retourner la réalité, c'est très drôle. Moi, je considère qu'il y a quand même des perversions plus graves dans la vie,
hein. Votre travail de chercheur, Emmanuel Todd, reprend ses droits. Deux livres ont marqué les esprits après l'Empire. En 2002, un essai sur la décomposition du système américain. Et le Rendez-vous des civilisations, écrit avec le démographe d'origine libanaise Youssef Courbage. Ça vous vaudra, ces deux livres, une nouvelle qualification de prophète qu'on vous affuble depuis régulièrement, puisque vous annoncez en partie la crise du système financier en 2008, les révolutions arabes de 2011. Mais c'est aussi l'occasion pour vous, ces deux ouvrages, d'un nouveau malentendu qui implique cette fois une personnalité... qui répond au doux nom de Ben Laden. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là.
Non, mais c'est terrible. Je voudrais dire quelque chose quand même, que ce qu'on voit n'est pas la réalité de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit L'invention de l'Europe, c'est un livre de 550 pages, rempli de cartes faites par moi-même à la main, où j'ai relu toute l'histoire européenne avec la grille de lecture familiale, ça m'a pris 6 ou 7 ans. Un livre comme L'origine des systèmes familiaux, c'est toute ma vie de chercheur, c'est un livre de 700 pages qui est sorti en 2011. Et si on pense en termes de temps passé de la vie, moi, je passe ma vie à lire sur ce que les gens semblent ne pas imaginer, c'est que je suis un bosseur, je suis un mec qui travaille. Je veux dire, si les gens savaient tout ce que j'ai lu, peut-être que c'est plus sympa avec moi quand même. Voilà, donc ces choses étant dites, j'ai ma vie qui est un travail de fond sur les structures familiales, les idéologies politiques, sur la dynamique des systèmes familiaux. Et puis, de temps en temps, il y a un truc externe qui me fait intervenir dans le débat, parce que j'ai une idée. Alors, je suis mu généralement par le civisme ou par l'indignation, ce qui est un peu la même chose. Dans le cas du bouquin, j'ai déjà dit, pour Après l'Empire... J'avais l'impression que tout le monde se trompait sur les États-Unis. Tous les gens étaient là à délirer sur l'hyperpuissance américaine. Ça commençait à me chauffer, quoi, parce que j'avais déjà entendu ça au moment de l'expansion soviétique en Afghanistan. Donc, je me suis dit, non, mais c'est pareil, ils se trompent. Je pourrais leur montrer Alors, j'aurais pu ne pas leur montrer, mais une des grosses motivations d'après l'Empire, c'est que j'étais dans un divorce pénible, j'étais au bord de la faillite, et qu'il fallait que j'écrive un livre pour survivre à mon divorce économiquement. Ça existe, il faut gagner sa vie quand même, quand on a des enfants, hein, et qu'on a des pensions à payer. Et donc, ce qui vraiment m'a motivé au final, mais c'est très intéressant, quand on voit la logique des idées, c'est que quelquefois, il faut être le dos au mur pour oser. C'est-à-dire, parce que moi j'étais dans la situation du mec, ouais, prophète certifié, j'ai prédit les fondements du système soviétique, banque, et j'arrête. Hein? Donc, j'étais là, tranquille. Bon, les États-Unis, c'était avant Youssef, hein, c'était
2002,
je fais un livre où je dis, non, les mecs, c'est ce que je ressentais. Les États-Unis, vous déconnez, ils vont se cracher ou ils vont se calmer, on verra. Je le sentais, je le savais. Mais évidemment, en faisant ça, il y avait pour moi une prise de risque quand même. On peut toujours se tromper. Donc, je prenais le risque de perdre mon crédit général, puisque je vivais, avec ma carte de visite, à prophétiser les fondements du système soviétique, ce qui lui donne le droit de raconter n'importe quoi vite fait sur n'importe quel sujet. Donc, il y avait un élément de risque. Donc, en général, quand on n'a pas besoin, on les prend pas, ces risques, hein, même si on y croit. Hein, en gros, et le fait d'être au bord de la faillite financière, au bord du gouffre, ça aide à prendre des risques. Et surtout, quand on est vraiment mal financièrement, psychologiquement, etc., ça permet de passer dans une zone psychologique intellectuelle qui n'est pas toujours tellement accessible aux êtres humains. C'est-à-dire être capable de concevoir le pire ou de concevoir l'extrême. Ou de concevoir le contraire. Donc les crises personnelles peuvent avoir des effets positifs sur le plan méthodologique. Après l'Empire, j'ai dû faire ça en quelques mois, 6 mois. C'est que dalle dans mon travail.
J'entends,
que dalle.
Mais du coup, on a oublié d'évoquer le personnage qu'on évoquait dans la question, à savoir Ben Laden. Pourquoi Ben Laden vous cite dans un de ses discours? Il ne donne pas votre nom, mais il cite vos travaux. Il invite.
Moi, d'abord, dans un premier temps, ça m'a collé la plus grande frayeur de ma vie, parce que mon fils David m'avait écrit de Cambridge à ce moment-là pour me dire félicitations pour Ben Laden qui te cite. Et mon premier réflexe, ça avait été de penser, ça devait être juste après la sortie du bouquin fait avec Courbage. C'est
le rendez-vous des civilisations.
Oui, dans lequel, en gros, on expliquait que les musulmans étaient capables d'évolution et de modernisation. Et donc, le premier truc que j'ai pensé, c'est ce livre est arrivé aux oreilles des équipes de Ben Laden. Et il a lancé une fatwa contre moi parce que je dis que les musulmans sont des mecs normaux et que c'est pas acceptable du point de vue terroriste. Ensuite, j'ai compris que c'était parce que j'étais le mec qui avait prédit l'affaiblissement des États-Unis et l'effondrement du système soviétique surtout. Parce que du point de vue, quand on est basé en Afghanistan, on pense aux deux. Et donc, j'y suis pour rien. Ensuite, j'ai réfléchi. De toute façon, les gens qui sont autour de Ben Laden, c'est toujours pareil. Les terroristes de haut niveau sont des gens qui ont fait des études scientifiques, qui lisent et remplis autour de lui de gens qui savent lire des langues. En fait, c'est juste normal. C'est-à-dire, pour penser que c'est anormal, il faut entrer dans cet univers de mépris et de sous-estimation de l'adversaire qui fait qu'on ne voit pas venir le coup. C'est tout.
Je voudrais évoquer maintenant...
J'ai quand même eu un peu peur.
Je peux l'entendre. Maintenant, il y a une notion que vous avez souvent invoquée dans les entretiens que vous avez accordés. C'est votre notion d'universalisme que vous auriez chevillé au corps. Pourtant, on peut avoir le sentiment, quand on a lu votre travail, que d'une certaine... pardonnez-moi l'expression, mais essentialisation des peuples. Vous êtes, je vais vous caricaturer à l'extrême, mais on peut entendre Emmanuel Todd dire « les Allemands sont comme ça, les Japonais sont ainsi, les Anglais et les Américains sont comme ça ». Il n'y a pas un peu un paradoxe entre cet universalisme et cette différenciation que vous faites entre les peuples ?
Il faudrait que je me réécoute et je ne sais pas comment je parle. Dans mon esprit, en fait, c'est pas « les Allemands sont comme si », c'est « l'Allemagne est comme si ». C'est l'Amérique est comme si, l'Angleterre est comme si, le Japon est comme si. C'est-à-dire qu'il y a un agrégat collectif qui a sa structure, qui a son système de valeurs. Et l'homme est universel, mais les systèmes sociaux ou les systèmes anthropologiques ne le sont pas. Mon universalisme est sincère et je pense vraiment qu'au départ, les hommes sont la même chose partout. De toute façon, c'est tellement évident qu'un type naît quelque part, il va parler la langue du lieu, il prendra les habitudes du lieu, il sera comme tout le monde. si la société en elle-même d'ailleurs n'a pas des habitudes racistes de triage des individus en fonction de la couleur ou d'autres critères. Mais l'individu n'existe pas tout seul, il existe toujours dans un groupe. C'est la grande fragilité de l'individualisme. Donc l'individu existe toujours à l'intérieur d'un système collectif qui lui permet d'apprendre une langue, qui lui donne un système de mœurs, qui donne un sens à sa vie. Ce qui rend l'universalisme impossible, c'est ce que ne veulent pas voir les idéologues. Ce qu'ils ne veulent pas le voir, c'est que la vie n'a pas de sens. C'est juste pas vrai. Si on va au bout du bout, les systèmes anthropologiques, les systèmes familiaux, c'est des systèmes qui, quel que soit leur niveau d'absurdité leur qualité, leurs défauts, qui donnent aux gens qui naissent dedans le sentiment que leur vie a un sens. En fait, c'est le sens de la coutume, c'est le sens de l'habitude. Voilà. Alors, ce qui, chez moi, là où je pourrais essayer de démontrer qu'en fait, je suis plus universaliste que les autres, c'est que moi, quand je parle de différences culturelles, de différences entre systèmes, je tombe pas sur des machins implicitement racistes. On dit, ouais, les pays développés, ils sont tous pareils. Et puis alors, il y a les mecs, là, qui se développent, qui rattrapent, mais on le dit pas, mais au fond, on sait bien qu'il y a une petite différence. Moi, je vais au bout du bout. Je vais au-delà de ce que fait l'anthropologie d'habitude, hein, qui est quand même la science des peuples primitifs ou moins avancés, etc. Je dis, non, le cœur de la France, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, la Russie, le Japon, tous ces pays très avancés, eh ben, ils restent différents dans leur système de mœurs. On peut leur appliquer une anthropologie différentielle, au sens mathématique plutôt qu'autre. Et ça, à mon avis, ça a des implications, si ce n'est d'universalisme absolu, du moins de tolérance et de respect de l'être humain en général, qui n'est pas dans les habitudes de beaucoup de gens.
Ce système, vous l'avez aussi dans votre dernier ouvrage publié à ce jour, qui est Charlie. Vous l'avez explicité, ça a été plutôt très mal ressenti. Je rappelle le contexte de ce livre, qui est Charlie. Ça a été écrit quelques semaines après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, et après surtout les manifestations du 11 janvier. Dans ce livre, vous expliquez que, selon vous, la moitié des manifestants qui avaient défilé ce dimanche de janvier étaient des islamophobes qui s'ignorent, et vous dites en même temps avoir été surpris par la violence des réactions.
Oui, c'était très violent, mais je dirais que là, dans ce livre, j'ai un peu débordé de ma manière. La motivation première est toujours la même. C'est-à-dire que tout le monde était là à dire « ça y est, la France libérale, égalitaire, fraternelle est réunie contre la menace ». Et puis j'ai vu arriver la carte publiée par Libé de l'ampleur des manifestations. J'ai immédiatement la carte du catholicisme traditionnel m'a pété aux yeux, donc j'ai vu une carte religieuse. Et donc j'ai eu le réflexe du chercheur, je me suis dit « non, les mecs, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Il y a des déterminants souterrains et inconscients de la tendance ou de l'intensité des manifestations qui sont dignes d'intérêt sociologique. Et donc j'ai un levier pour dire aux gens des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Mais je l'ai fait. Je veux dire, c'est même sur le plan, je dirais, méthodologique, c'est probablement mon livre le plus sérieux parce que je me suis fait aider par un mathématicien compétent qui a des analyses de régression, des tests de signification. Donc c'est très au-dessus du niveau de sérieux de mes livres habituels, en fait, en termes pour les gens qui prennent vraiment au sérieux les tests statistiques, la cuisine statistique.
Mais vous comprenez que les gens aient pu se sentir blessés.
Mais je reconnais, là je suis prêt à reconnaître que dans ce cas, il y avait autre chose chez moi, de complètement instinctif, et que ce que je dis, c'est, je le redis rapidement parce que pour moi c'est une affaire close, hein, que la priorité pour un pays meurtri, dans des conditions économiques difficiles, en cours de fragmentation sociale, culturelle, presque ethnique, contrairement à ce que je croyais autrefois, je m'adapte, hein, je vois ce qui se passe, la priorité, ça n'est pas de cibler Mahomet. C'est pas la priorité, ça m'a vraiment... Et donc j'ai fait un livre, je dois dire, assez enlevé. Je suis prêt à admettre, mais... Alors là, et d'ailleurs, la preuve, je dirais... C'est le seul livre pour lequel, donc, j'admettrais, évidemment, tout le monde a pensé à l'époque, Todd est un mauvais français. Mais, en fait, de mon point de vue, c'est le contraire. C'est le moment où je me suis, pour moi, c'est le seul moment de ma vie où je me suis vraiment assumé comme intellectuel français et pas comme chercheur seulement. Là, je me suis mis, je dirais, dans la posture qu'on attend historiquement dans le monde. Je m'en suis aperçu en voyageant, après parce que le livre a été traduit dans des tas de langues. Ce qu'on attend d'un intellectuel français, c'est qu'il soit capable de se mettre en opposition avec son propre pays s'il a le sentiment que ça déconne. Ça, c'est la tradition de Voltaire, hein, sur la tolérance. C'est la tradition de Zola. Je ne me mets pas du tout à leur niveau. Là, je me suis conformé au modèle de l'intellectuel français qui n'affronte pas la France, en fait, mais qui affronte les classes moyennes françaises. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été ressenti à l'étranger. Ça m'a vraiment démoli en France. Enfin, j'en suis tombé malade de tout ce que j'ai pris sur la gueule. Mais à l'étranger, les gens, voilà, j'ai été perçu comme... C'est ça qu'on attend des Français. Ce qu'on attend des intellectuels français, c'est pas des mecs qui sont là à dire « Ouais, la France est formidable, on est grand, quoi qu'on fasse, avec nos 10% de chômage. » Mais pour moi, c'est une affaire close. Je réponds honnêtement, je suis très fier d'avoir écrit ce livre. Je reconnais que j'étais un peu brutal. Et je regrette que des gens aient été blessés. Je dirais qu'en tant qu'être humain, avoir eu le courage de faire face à cette unanimité insupportable, je me sens justifié au sens religieux. Ouais, j'ai osé faire ça, parce qu'il fallait le faire sur le plan moral. Et là, on est dans un registre qui n'est pas celui de la recherche. Tout d'un coup, il me vient... J'ai le doute. Est-ce que j'ai vraiment été un intellectuel français qui remplit son rôle d'intellectuel français? Ou est-ce que je n'ai pas essayé de réaliser le rêve de tout petit garçon juif qui voudrait être un prophète de l'Ancien Testament et qui dit à Israël, attention, tu te conduis mal, etc. Je ne sais pas. Mais c'est fini. Et je suis revenu à la recherche maintenant. Je sors un très gros livre de recherche qui m'a pris des années. Et c'est clair pour moi que je n'en sortirai plus car je n'ai pas supporté physiquement les conflits. Je ne suis pas fait pour ça.
On arrive au terme de cet entretien, Emmanuel Todd. Je voulais finir non pas sur une note riante, mais sur une explication, puisque vous avez une citation en parlant de la pierre tombale qui sera la vôtre. Vous avez dit « J'aimerais comme épitaphe sur cette pierre tombale, je n'ai rien compris, mais c'était génial. Un prophète qui n'a rien compris. » Alors là, c'est à vous de m'expliquer ce que vous avez voulu dire.
Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? C'est une formule qui me hante, en fait. C'est vraiment... ça fait allusion à la vie personnelle, en fait. Ça fait allusion à la vie personnelle. Fondamentalement, je suis content de ce que j'ai fait en tant que chercheur. J'ai fait beaucoup plus que je n'imaginais possible quand j'étais jeune étudiant chercheur à Cambridge. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai construit un modèle dont je viens de finir la synthèse, certainement. Mais c'est associé aussi à derrière, dans la vie de tout type qui s'enferme dans ses livres, dans des statistiques, etc. Ça va forcément correspondre à des insuffisances ou à des manques dans le domaine relationnel et je pense que ça veut dire j'ai pas très bien compris ce qui m'était arrivé dans ma vie personnelle.
Merci Emmanuel Todd pour cette série d'entretiens.
Fin de cette rencontre de Sébastien Petitot avec Emmanuel Todd. À voix nue, prise de son Éric Audra, réalisation Vincent Abouchard, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.